Radio de la Paix, il est 7 heures.
Le journal de 7 heures.
Bonjour à tous et bienvenue à ce journal de 7 heures de la Radio de la Paix. Tout de suite, les titres de cette édition. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro abrite aujourd'hui, jeudi, la rentrée solennelle 2019 du Sénat de Côte d'Ivoire. La cérémonie sera présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, est arrivé mercredi soir à Abidjan. Cette visite d'amitié et de travail en terre ivoirienne devrait permettre de booster la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le 12e Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi. Plusieurs projets de loi et de décrets, dont un a effet immédiat. Il s'agit de la confection de la carte nationale d'identité qui expire en juin 2019 pour une majorité de la population ivoirienne et la suite à donner à la question des 18 000 tonnes de riz avariées en Côte d'Ivoire. Après l'actualité internationale et la revue des titres des journaux ivoiriens de Souleymane Kati Ouattara, et bien en fin de journal, l'invité de la rédaction Soro Adams recevra l'avocat au barreau de Côte d'Ivoire et président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, Maître Traoré Drissa. Il fera ici toute la lumière sur le pourquoi des requêtes de trois organisations des droits de l'homme, LIDO, FIDH, MIDH, qui ont saisi la Cour suprême de Côte d'Ivoire pour demander l'annulation de l'ordonnance d'amnistie du 6 août 2018 signée par le président ivoirien après la cour auprès de la Cour suprême. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Tout de suite dans l'actualité de ce jeudi 7h, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro abrite ce jeudi la rentrée solennelle 2019 du Sénat de Côte d'Ivoire. La cérémonie sera présidée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Quels sont les enjeux de cette rentrée qui intervient après la récente nomination des 33 sénateurs restants en ligne de Yamoussoukro? La correspondance de Radi Razak Lufrid.
Mise en place en avril 2018, le Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien créée avec l'avènement de la Troisième République en 2016, va connaître toute sa plénitude lors de cette rentrée solennelle. Les 66 sénateurs élus qui ont œuvré à l'effectivité des organes de l'institution seront rejoints par les 33 derniers nommés il y a quelques jours par le président de la République. Avec les 99 sénateurs au grand complet, le Sénat va désormais exercer ses prérogatives dans le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale à travers l'évaluation des politiques publiques. C'est donc un moment capital de l'histoire de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rentrée, le président du Sénat, Aoussou Jeannot, présentera les grandes orientations de l'institution pour les 9 mois prochains. Le président de la République, Alassane Ouattara, va rehausser la cérémonie de sa présence, comme il l'avait déjà fait pour la rentrée solennelle en 2018. Il faut indiquer que la rencontre prévue pour l'après-midi sera précédée en cette matinée par la pose de la première pierre de la cité Sénat dans le village de Kami. Yamoussoukro, Radi Razak Wilfried, Radio de la Paix.
Le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, est arrivé hier soir à Abidjan où il effectue une visite d'amitié de travail de 48 heures. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s'entretiendra aujourd'hui jeudi avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara à la suite de la signature d'accords de coopération. Ce sont au total sept accords qui lient la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Ils sont relatifs entre autres au transport aérien, au traité d'amitié de coopération, à la coopération culturelle, scientifique et technique, à la création d'une commission mixte de coopération, à la santé, à la production pharmaceutique. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte se sont élevés en 2018 à 31,968 milliards de francs CFA contre 32,464 milliards de francs CFA en 2017. Cette visite du président égyptien ici en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'une tournée ouest-africaine qu'il a entamée dimanche par la Guinée. Après l'étape ivoirienne, Abdel Fattah al-Sissi est attendu au Sénégal. En présence du chef de l'État, le 12e conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 10 avril. Plusieurs projets de loi et de décrets, dont un a effet immédiat, et bien il s'agit de la confection de la carte nationale d'identité qui expire en juin 2019 pour une majorité de la population ivoirienne. Et la suite a donné à la question des 18 000 tonnes de riz avariées en Côte d'Ivoire. Le point avec vous, Monica Bier.
Un projet de décret à effet immédiat vient d'être pris par le Conseil des ministres pour confectionner la carte nationale d'identité. Un contrat de partenariat et de convention a été passé entre une entreprise, la société Semelec, et l'État ivoirien. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré.
Produire au moins 36 millions de cartes pendant la durée du contrat, dont 12 millions pendant les deux premières années. L'objet de cette convention signée d'ailleurs pour opérationnaliser le travail de Semlex sur le terrain. Dès la signature de ce projet de décret automatiquement, l'entreprise sera en responsabilité de produire les différents cartes d'identité, commençant bien sûr pour ceux dont les cartes arrivent à échéance au mois de juin. Avant la fin de l'année 2019, beaucoup de cartes arrivant à expiration auront été déjà éditées pour les uns et les autres.
La question du riz avarié est revenue au cours de cette conférence de presse. La destruction de ce riz impropre à la consommation avait été annoncée sans acte concret. La réponse du porte-parole.
18 000 tonnes de riz qualifiées à varier après des analyses faites par le ministère du Commerce sont sous scellé. On ne peut pas accéder à ces différents riz. Ces 18 000 tonnes vont être détruites de façon méthodique avec la procédure en vigueur. Il faut juste patienter, cela va se faire. Et le gouvernement a été très transparent dans la gestion de ce dossier. Très tôt, les associations de consommateurs ont été associées à l'effet de constater et de suivre toutes les procédures de bout en bout. Je ne pense pas que quelques riz provenant de ce stock puissent se retrouver sur le marché. Il faut que nos concitoyens soient rassurés.
Le prochain conseil des ministres reprendra dans 15 jours.
Un mot de paix et de sécurité dans ce journal. Le directeur de cabinet du Premier ministre ivoirien a présidé l'atelier de coordination du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse rapide en Côte d'Ivoire qui se tient depuis mardi ici même à Abidjan. Aux participants, le directeur de cabinet du Premier ministre a expliqué les missions assignées au Centre national de coordination du mécanisme de réponse rapide d'alerte précoce avant d'exprimer les attentes du gouvernement ivoirien. Au terme de cet atelier, on écoute Emmanuel Aoutou Koffi.
La démarche d'allier alerte précoce à la réponse rapide est un défi que nos États se doivent de relever. L'action dans ce domaine consistera notamment à œuvrer au renforcement des capacités des différents acteurs intervenant en matière de paix et de sécurité sur les différents mécanismes. Il s'agit de déceler, de contrôler et de détecter tous les germes de menaces et de violences. C'est dans cette approche de maîtrise des questions de paix et de sécurité, aussi bien en interne qu'en externe, que la Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres États membres de la CEDEAO, a mis en place le Centre national de coordination du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse rapide. Le dynamisme des actions du Centre viendra en complément aux actions déjà initiées par l'État pour une architecture de sécurité plus renforcée. J'invite donc les animateurs des structures intervenant dans l'alerte précoce et la mise en œuvre des réponses rapides à approfondir la synergie de leurs interventions. Nous devons tous contribuer avec efficacité et de façon durable et continue à alimenter le centre en informations nécessaires permettant d'orienter les autorités vers une bonne décision.
Voilà, à l'instant, c'était le directeur de cabinet du Premier ministre ivoirien Emmanuel Aoutou Koffi. Les enseignants membres de l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire sont depuis mercredi en séminaire à Grand Bassam. Ils reviendront sur les négociations avec le ministère de l'Éducation nationale, celui de l'économie et des finances et le ministère de la fonction publique relative à l'ensemble de leurs revendications à valeur pédagogique, administrative et financière. Plus de précisions avec David Bliblé, il est le porte-parole de l'ISEPSI.
Quand nous parlons de revendications à valeur pédagogique, il s'agit d'abord de notre profil de carrière que nous avions présenté et qui n'était pas achevé. Et puis, les revendications à caractère administratif, nous avions posé aussi de l'efficacité de notre administration scolaire. Donc, d'où la création d'un emploi dans ce sens-là, où les différents acteurs vont être formés pour être beaucoup plus efficaces pour gérer notre administration. Les emplois à caractère financier, ce sont donc les emplois qui font appel à des indemnités diverses pour lesquelles nous avions posé des préoccupations, l'indemnité de logement et d'autres camarades de certaines organisations ont posé aussi d'autres préoccupations qui ont un caractère financier.
On aurait appris dans la presse que le MIDD saisit la justice par rapport au gel des salaires et des comptes bancaires des enseignants grévistes. Vous confirmez?
Je pense que cela s'inscrit dans la droite ligne de ce que l'intersyndical de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire avait dit à ses deux dernières assemblées générales, que pour des questions pour lesquelles où il y a eu une violation assez grave de la liberté syndicale, et même au niveau de nos comptes, nous avions donc dit que c'était des violations assez graves pour lesquelles nous devrions réagir. Donc, j'ai entendu nos camarades du MDD soulever ces questions-là, mais comme nous sommes des syndicalistes, on n'a pas encore vu les résolutions au niveau donc de l'IGEPSI.
Voilà David Bliblé, le porte-parole de l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire, était avec Jean-Claude Mabéa. La réforme hospitalière annoncée par le gouvernement ivoirien suscite de nombreuses interprétations. D'aucuns parlent même de privatisation des établissements hospitaliers. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Akaa, où il a expliqué cette réforme et ses avantages depuis Yamoussoukro, c'était à l'occasion du lancement de la campagne nationale de promotion de la santé maternelle. Nous l'écoutons.
La réforme hospitalière, il ne s'agit nullement de privatisation avec cette réforme, mais plutôt d'un nouveau mode de gestion et non seulement d'administration des hôpitaux qui doit conduire les établissements de santé vers une flexibilité dans les acquisitions de biens et services. Il s'agit d'une réactivité dans la prise de décisions thérapeutiques dans les établissements sanitaires, il s'agit d'un accroissement de la responsabilisation nécessaire au bien-être des malades. En somme, la réforme hospitalière visera à induire un changement structurant des modes de gouvernance et de fonctionnement des hôpitaux en faisant appel à l'Ivoirien nouveau, vision du président de la République Alassane Ouattara. Cela permettra à l'hôpital d'améliorer ses performances tout en gardant sa mission sociale. Il s'agira entre autres de rendre les hôpitaux plus compétitifs, d'améliorer le système d'information, de développer la carte hospitalière et l'organisation territoriale et interne des hôpitaux. Il s'agira d'améliorer la qualité de l'offre des services et de soins de santé avec au centre du dispositif le patient et le praticien.
Voilà, c'était Aka Willy, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire. Un mot de l'actualité internationale au Soudan. Selon plusieurs sources, des véhicules militaires sont déployés à différents carrefours stratégiques de la capitale Khartoum. Un peu plus tôt, l'armée avait prévenu qu'elle ferait bientôt une déclaration importante. Même message diffusé sur la radio auréolé de chants patriotiques. Les médias d'État n'ont pour l'instant pas donné de détails. Dans la page culture de ce journal, le père de la littérature ivoirienne Bernard Benlin, Dadier, disparu le 9 mars dernier, continue de recevoir les honneurs dignes de son rang au Palais de la Culture qui porte son nom. S'est ouvert l'hommage national en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan. Duncan Blé Didier Guy a suivi cette cérémonie. Voici son compte-rendu.
Pour célébrer l'homme de tous les continents, les autorités ivoiriennes, ambassadeurs, universitaires, académiciens ont marqué leur présence au sein du Palais de la Culture, mais il y avait également de nombreux élèves et étudiants, ceux dont les œuvres de Dadier nourrissent sans modération les âmes et l'intellect.
Homme de tous les continents et de tous les combats du siècle, Bernard Benlin Dadier nous invite à chanter là.
Professeur René Nyalega de la Fondation Bernard Dadier, reconnaissant le combat de l'auteur, Dadier est le père des belles lettres ivoiriennes et le repère des hommes de culture sur deux siècles de vie, a martelé Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie.
Bernard Dadier s'est servi de sa plume de feu pour fustiger nos repos, dégrossir le joug et traverser le siècle de feu.
Une œuvre si prolifique pour écarter les ténèbres et ouvrir à chacun des fenêtres sur le monde, le vice-président Daniel Kablan Duncan.
Son nom fut cité aux côtés des grandes figures. Cette reconnaissance, il a offerte à la Côte d'Ivoire en sa qualité de père et d'ambassadeur des belles-lettres ivoiriennes.
Son inhumation est prévue pour le vendredi 12 avril.
Voilà, sans transition, on retrouve à présent Souleymane Katia Ouattara pour la revue des titres des journaux ivoiriens. Bonjour Katia.
Bonjour César, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, la presse, dans sa grande majorité, revient sur la commémoration du 11 avril.
Non? Oui César, le 11 avril 2011, on s'en souvient, est la date de l'arrestation de Laurent Gbagbo. Cela fait donc aujourd'hui 8 ans. Le patriote dans un photomontage qui oppose l'ex-président au projet de développement du président actuel, écrit à sa une. Voilà 8 ans que l'enfer est derrière nous, avant d'ajouter la Côte d'Ivoire sous Ouattara. La paix et le développement sont de retour. L'expression qui va dans le même sens écrit, il y a 8 ans, Ouattara mettait fin à la faillite morale.
Alors Katia, les avis sur la question sont partagés. Les journaux proches de l'opposition n'ont pas la même interprétation de cet événement.
Je ne vous le fais pas dire César, le journal Le Temps commémore le coup de force contre la démocratie. LG Info qui parle du chaos du 11 avril promet de révéler comment Gbagbo a survécu. Le quotidien d'Abidjan qui décide de faire le bilan de ce parcours, qui part selon lui de sa tentative d'assassinat le 11 avril 2011 à son acquittement le 1er février 2019, s'exclame « Gbagbo, le grand vainqueur ». Et pour finir, notre voix s'interroge 8 ans après la crise post-électorale, qui est responsable des 3000 morts.
Et on reste dans le temps des commémorations, cette fois avec le PDCI RDA.
Le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire à 73 ans, l'événement a été célébré le 9 avril, mais il continue de faire la une de l'actualité. Le nouveau réveil se fait l'écho d'une grande conférence publique au siège du parti et affiche Gramel sans pitié pour le RHDP. Le rassemblement estime que Bédier continue d'abuser son monde. Le mandat fait un focus sur ses grandes absences qui parlent à Bédier avant de s'exclamer 26 ans de gâchis.
Alors, comme tous les mercredis, il y a eu un conseil des ministres hier, non ?
Et la décision qui semble avoir retenu toute l'attention de nos confrères, c'est assurément celle qui concerne la carte nationale d'identité. Fraternité Matin Barassa 1, lutte contre l'orpaillage clandestin, justice, vie chère, carte nationale d'identité, santé. Le gouvernement prend de nouvelles mesures et le journal d'annoncer que 12 millions de cartes d'identité seront produites sur 2 ans. Le Jour Plus nous dit tout sur le démarrage de l'opération, tandis que le quotidien d'Abidjan nous révèle que le régime confie la confection de la CNI à un Belge.
Merci à vous, Katia Souleymane, et on vous retrouve à 8h. À présent, l'invité de la rédaction, le jeudi 4 avril dernier, 3 organisations des droits de l'homme, l'IDO, FIDH, MIDH, ont saisi la Cour suprême de Côte d'Ivoire pour demander l'annulation de l'ordonnance d'amnistie du 6 août 2018 signée par le président de la République. Avocat au barreau de Côte d'Ivoire et vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, Maître Traoré Drissa fait ici toute la lumière sur le pourquoi de leur requête auprès de la Cour suprême. Il est interrogé par Soro Adams.
Bonjour Maître Traoré Drissa.
Bonjour Monsieur Soro.
Une ordonnance d'amnistie, qu'est-ce que c'est ?
Une ordonnance d'amnistie, c'est une décision que prend le chef de l'État seul pour décider que des faits qui ont été commis, que ces faits-là ne peuvent plus être poursuivis en justice pour condamner les personnes à des peines d'emprisonnement.
Une décision que prend le chef de l'État seul, vous l'avez dit.
Oui, parce que en temps normal, et ce que prévoit notre Constitution, c'est que l'amnistie ne peut être prise que par l'Assemblée nationale, après discussion. Mais dans ce cadre-là, c'est le chef de l'État seul qui a pris, et cela n'est pas de son pouvoir. Pour nous, cette ordonnance est illégale. Parce qu'avant que le chef de l'État ne prenne une ordonnance, il devrait être habilité par l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été le cas dans ce qui concerne les amnisties. Et lorsqu'il est habilité avant, après, l'Assemblée nationale ratifie. Mais dès l'instant où, pour nous, la base n'a pas été respectée, même une loi de ratification plus tard ne peut pas venir effacer l'illégalité.
Alors, il n'y a que le 6 août 2018, le chef de l'État a annoncé la décision d'amnistier des personnes en lien avec la crise post-électorale. Alors, ça veut dire que cette ordonnance du chef de l'État n'est pas valable ?
Non, elle est exécutée, puisque les personnes en ont bénéficié. Mais nous estimons, pour nous, qu'elle ne devrait pas pouvoir être exécutée, elle ne devrait pas être valable, et donc il faut revenir dessus. C'est pourquoi le 4 octobre 2018, comme la loi nous donne la possibilité, nous avons saisi le chef de l'État lui-même pour lui demander d'annuler l'ordonnance d'amnistie. Il a gardé le silence pendant 4 mois, et dans ce cas-là, la loi nous dit que si l'autorité qui a été saisie garde le silence pendant 4 mois, c'est comme si cette autorité a décidé de ne pas accéder à notre demande. Et donc nous avions 2 mois pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême, et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait le 4 avril, nous avons déposé notre requête au fin d'annulation de l'ordonnance d'amnistie devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Et qu'en attendez-vous exactement?
Nous attendons que la chambre administrative de la Cour suprême dise que le chef de l'État n'avait pas le pouvoir, la qualité de prendre une ordonnance d'amnistie et donc d'annuler cette ordonnance-là, parce que nous estimons que pour avoir une paix durable, pour avoir une réconciliation sincère, il faut que les personnes qui ont commis des actes graves puissent être sanctionnées, que leur responsabilité au moins soit reconnue pour que les victimes sachent ce qui s'est réellement passé et puissent passer à autre chose. Mais si la vérité n'est pas sue, si les personnes ne sont pas sanctionnées, on risque de reconnaître d'autres violences. Je voudrais simplement rappeler que dans l'ancienne constitution de 2000, il y avait des dispositions portant amnistie des membres du CNSP. En 2003, après le déclenchement de la crise armée, il y a eu une loi d'amnistie. En 2007, il y a eu une autre loi d'amnistie. Malgré cela, nous avons connu la crise post-électorale. Ça veut dire que les amnisties n'apportent pas la paix. Et l'autre remarque, c'est que malgré le fait qu'on était en pleine crise en 2003 et en 2007, les lois d'amnistie prévoyaient clairement que n'étaient pas amnistiées les violations graves des droits de l'homme, les crimes internationaux, ce qui laissait toujours la possibilité pour ceux qui ont commis les crimes les plus graves d'être poursuivis. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. En conséquence, nous avons bon espoir, nous avons confiance à la justice, nous espérons que la justice va nous recevoir, va nous entendre et faire en sorte que justice soit rendue pour ces victimes de la crise ivoirienne.
Alors, l'ordonnance prise par le chef de l'État a été exécutée. Que voulez-vous exactement? Est-ce que la chose aujourd'hui est attaquable?
Oui, il faut rappeler que poursuivre quelqu'un n'est pas obligatoirement de l'arrêter et de le mettre en prison. Mais nous pensons qu'il faut laisser la justice faire son travail. Et en le disant, nous nous positionnons dans ce qui avait été l'engagement du chef de l'État avant le 6 août 2018. Dans chacune de ses interventions, le chef de l'État était clair et précis. La justice fera son travail, personne ne sera protégé, tous ceux qui ont des choses à se reprocher seront poursuivis. C'était ça l'engagement du chef de l'État et aujourd'hui, les victimes sont déçues. C'est pour ces victimes-là que nous agissons et c'est pour une paix durable en Côte d'Ivoire, c'est pour un état de droit que nous agissons. Nous sommes tous d'accord avec le chef de l'État qu'il faille aller à la paix, qu'il faut la réconciliation, mais la réconciliation doit se faire sur la vérité, sur la justice. Sinon, on va construire un château de cartes qui risque de s'écrouler et qu'on ait encore d'autres victimes.
Je vous remercie, Maître Traoré Drissa.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de cette édition de 7 heures, le rappel des principales informations. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro abrite aujourd'hui la rentrée solennelle 2019 du Sénat de Côte d'Ivoire. La cérémonie sera présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, est arrivé hier soir à Abidjan. Cette visite d'amitié et de travail inter-ivoirienne devrait permettre de booster la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le 12e Conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi 10 avril. Plusieurs projets de loi et de décrets, dont un à effet immédiat. Il s'agit de la confection de la carte nationale d'identité qui expire en juin 2019 pour une majorité de la population ivoirienne et la suite à donner à la question des 18 000 tonnes de riz avariées en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, au Soudan, selon plusieurs sources, des véhicules militaires sont déployés à différents carrefours stratégiques de la capitale Khartoum. Un peu plus tôt, l'armée avait prévenu qu'elle ferait bientôt une déclaration importante.